La saga de la Maison de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vous fais découvrir chaque semaine des personnages qui ont fait la richesse de notre belle Savoie. Pour continuer notre découverte de la saga de la Maison de Savoie, et après Amédée VII, le Comte Rouge, c'est aujourd'hui Amédée VIII, dit le Pacifique, de 1391 à 1451. Il est né à Chambéry le mercredi 4 septembre 1383, quelques mois après la mort de son grand-père, et n'a que 8 ans lorsque son père, le Comte Rouge, décède. La lutte pour la régence entre Bonne de Berry, sa mère, et Bonne de Bourbon, sa grand-mère, est sans merci. Et c'est cette dernière qui finit par l'emporter. À 10 ans, le 30 octobre 1393, il épouse Marie de Bourgogne, fille du duc Philippe du Hardy, et joue ainsi dans la cour des grands d'Europe. Surnommé le Pacifique, il est pour nous le dernier comte, mais aussi le premier duc de Savoie. À 18 ans, en 1401, le comte de Genève étant décédé sans descendance, il en profite pour acheter le Genevois pour 45 000 écus d'or à Odon de Troyes-Villard, un lointain parent, ainsi que La Roche et sa région à d'autres seigneurs. Son mariage confirmé en 1403, il devient héritier du marquisat de Saluces. Il réunit le Genevois, le Faucigny et le Beaufortin, et il donnera ce nouveau territoire en apanage à son fils Philippe de Savoie. En 1408, il perd son fils aîné, qui ne vit que 3 mois de septembre à décembre. Il reporte alors ses espoirs sur une future naissance, mais il doit attendre le 6 avril 1412, un an après celle de sa fille Marie, pour célébrer la naissance d'Amédée, qu'il fait prince de Piémont. Entre-temps, en 1410, il a fondé à Ripaille un prieuré, selon les règles de saint Augustin, pour commémorer la mort tragique de son père et fait reconstruire et restaurer le château d'Annecy, en partie dévoré par les flammes en 1412. On lui doit notamment le dallage de la grande salle et le plafond à caissons. En 1415, l'empereur Sigismond traverse la Savoie pour se rendre en Aragon. Il est magnifiquement reçu à Chambéry grâce à l'argent collecté dans les trois États par Amédée, qui l'accompagne à Lyon. À son retour, le 19 février de l'an de grâce 1416, l'empereur entérine l'annexion du Genevois par la Maison de Savoie et érige le comté de Savoie en duché. Nous t'élevons à la dignité de prince et de duc, ordonnant expressément que toi et tes héritiers légitimes et tes successeurs, les ducs de Savoie, vous jouissiez à jamais de toute prééminence, dignité, pouvoir, liberté et honneur attachés aux fonctions des ducs du Saint-Empire. C'est le triomphe d'Amédée VIII et de son lignage, mais aussi de la Savoie, devenu un duché important entre celui de la Bourgogne et celui du Milanais. Silvius Piccolomino dresse un portrait intéressant de ce prince. Jamais enfant de la Maison de Savoie n'a annoncé un si grand caractère. Il a toujours dirigé son esprit vers les grandes choses. Sous son administration, la justice, cette première des vertus, a toujours fleuri. Plus désireux de paix que de vengeance, il s'est étudié à vaincre ses ennemis par des bienfaits plutôt que par l'épée. Dans sa maison, on a vu régner, au plus haut degré de l'honnêteté, la convenance des mœurs, une règle presque claustrale. Rappelons, dit Piccolomino, sera sacré pape sous le nom de Pie II. Le nouveau duc n'en reste pas là, puisqu'en 1417, il achète Rumilly à la comtesse Blanche de Genève, et l'année suivante, il accueille avec faste au château d'Annecy le pape Martin V et des cardinaux de retour de Constance. En 1427, année où il vend Montrottier à Pierre de Menton, son conseiller, il récupère le Piémont et acquiert de nouvelles possessions sur le versant sud-est des Alpes. Il ferraille à Azincourt, aux côtés des armées royales de France, avec bonheur, et fait construire la cathédrale et la Sainte-Chapelle de Chambéry. En 1430, il publie des statuts de Savoie, organisant avec précision et netteté les organes du gouvernement du duché, son administration, ainsi que les rapports sociaux et judiciaires. Ce texte lui vaut parfois le nom de Salomon. Les statuts de Savoie font de ce duché un État moderne. Le duc s'appuie sur un chancelier qui préside le conseil, un grand trésorier et la chambre des comptes pour perception moderne de l'impôt, bien avant Colbert en France. Le duché est divisé en 5 bailliages, dirigés chacun par un bailli, représentant direct du duc. Un peu comme les missi dominici de Charlemagne ou les futurs intendants de Louis XIV, ou bien encore des préfets de la République. Chaque bailliage est subdivisé en châtellenie, dirigé par un châtelain. Vassal, certes, mais homme puissant puisqu'il perçoit l'impôt pour le duc et possède le droit de justice dans les petites affaires. Autour de cette hiérarchie féodale, très structurée, s'agite tout un monde de petits fonctionnaires, comme le curial et le métral qui s'occupent des livres de compte et du fisc, les banniers ou les messiers, véritables gardes champêtres, les juges-mages pour chaque bailliage s'occupant de la justice. Mais Amédée et les rédacteurs des statuts ont prévu un conseil résident, assisté du procureur fiscal général et d'un avocat fiscal général pour traiter les litiges. Mieux, le duc met en place les assemblées des trois états, noblesse, clergé et tiers état. Et même si le duc oublie de les réunir souvent, n'oublions pas que nous sommes au milieu du XVe siècle et que l'on mesure combien Amédée et la Savoie sont en avance sur leur temps. Malgré tout, l'année 1430 est triste pour le duc puisqu'il perd sa femme, Marie de Bourgogne, et sa fille, Bonne, toutes deux inhumées dans l'abbaye de Hautecombe. Cependant, la Savoie est un état très riche, et cette richesse est en partie due à la géographie, située entre l'Italie du Nord, aboutissement des voies de l'Orient, et les dynamiques et industrieuses Flandres du Nord. Elle est un passage obligé et les droits de douane afférents remplissent les caisses ducales. Après la mort le 2 août 1431 de son héritier Amédée, le duc fait de son second fils Louis, prince de Piémont, et organise ses épousailles 2 ans plus tard avec une gente demoiselle d'Orient, Anne de Lusignan, princesse de Chypre, peut-être le rêve de Jérusalem. Toujours est-il que la venue de cette princesse sera cause d'un grand émoi dans le duché et peut-être d'un début de décadence. Amédée VIII fonde en 1434 l'ordre de Saint-Maurice, relève des châteaux comme ceux d'Annecy et de Ripaille, fortement agrandis, où il se retire avec 6 compagnons après son veuvage l'année suivante. Ce château des Rives Lémaniques reçoit 7 tours, symbole de ses 7 solitaires. En effet, Amédée et ses compagnons mènent ici une vie d'asceste, faite de prières, de jeûnes, de mortifications et de travail acharné. Contrairement à ce qu'a écrit un certain Voltaire, autre personnage fort connu ici, faire ripaille ne signifie nullement faire la fête, mais tout le contraire. Mais les fausses images ont la vie dure. Amédée et ses 6 chevaliers portent grise robe, long mantel, chapeau gris à courte cornette, bonnet vermeil par-dessus le chapeau, ceinture dorée par-devant, au-dessus de la robe, sur un mantel, une croix d'or assez pareille à celle des empereurs d'Allemagne. Tous membres de l'ordre religieux et militaire de Saint-Maurice. En 1439, 26 cardinaux sur 33, réunis en concile à Bâle, déposent Eugène IV et font d'Amédée le pape d'Avignon. Si ces cardinaux agissent ainsi, c'est bien, semble-t-il, pour tenter de mettre un terme à l'anarchie qui règne dans l'Église déchirée. Ils pensent qu'en offrant la tiare à ce puissant et très pieux prince, celui-ci pourra ramener la paix dans la chrétienté. Amédée abdique au profit de son fils Louis Ier. Sans cependant vraiment abandonner les rênes du duché, et part recevoir la tiare pontificale à Bâle, où il prend le nom de Félix V. Mais pour certains, il est un antipape face à Eugène IV, puis face à Nicolas V qui lui succède. Ce dernier le déclare même hérétique et schismatique, et n'a pas peur de l'excommunier et de proclamer sa déchéance sur les États. Sage parmi les sages, Félix V, voulant mettre un terme au schisme d'Orient qui dure depuis 1378. Le pape, pour le remercier, le fait cardinal, légat pour la Savoie, l'Allemagne et la Suisse. Mais surtout, il accepte que les évêchés de Genève et Lausanne reviennent à la maison de Savoie. Durant son temps de pape, le duc, dont on ne dira jamais assez combien il fut un grand parmi les grands d'Europe, a réveillé le comté de Genevois, érigé en apanage pour un cadet de la maison. Retiré définitivement à Ripaille, près de Thonon, et probablement fatigué de tant de tumultes, il meurt à Genève le 7 janvier 1451 à 68 ans. Son corps repose à Turin. Il reste pour les Savoyards leur premier duc, mais aussi un grand, un sage parmi les sages. Mécène, homme d'église et grand administrateur, sa mort crée en Europe un incontestable vide politique. Mais pour les Évianais, il reste le créateur de la fête des roses. Instituons à perpétuité en notre bonne ville d'Évian une fête, laquelle sera dite fête des roses et célébrée chaque année au commencement de la belle saison, dit la charte de 1433. Une place à Annecy, parvis du palais de justice notamment, porte son nom depuis 1985 et il est l'un des rares princes de Savoie à avoir son nom donné aux rues, places et placettes dans les deux départements savoyards. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, écrivain et historien savoyard. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout à une prochaine fois.